C'était le début du XVIe siècle, la réforme a été imposée plus ou moins de force par le roi, par une partie de l'élite au pouvoir en Suède. Et l'Église catholique a été en quelque sorte chassée du pays suite à la rupture avec Rome. Et l'Église catholique a même été formellement interdite dès le début du XVIIe siècle. Et il est permis d'être catholique en Suède seulement depuis 1873. Ensuite, petit à petit, est venu, bien sûr, avec la sécularisation, toute liberté religieuse, qui font qu'aujourd'hui, le climat est parfaitement correct. Il y a un bon dialogue œcuménique. La Suède est même connue et reconnue pour la qualité du dialogue œcuménique, ce qui explique en partie pourquoi cette commémoration commune a lieu en Suède.
Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le profil de cette Église catholique suédoise ?
Une des grandes spécificités de l'Église catholique en Suède est qu'elle est une église d'immigrés, presque par définition, puisqu'elle est relativement récente suite à cette histoire un peu particulière. La plupart des catholiques sont de la troisième, deuxième ou même première génération. Il y a beaucoup de Polonais, il y a beaucoup de personnes issues de l'Amérique latine. Plus récemment, bien sûr, il y a beaucoup de Syriens, beaucoup d'Irakiens qui se sont installés en Suède et qui peuplent aussi l'Église catholique. L'autre particularité, c'est qu'elle attire beaucoup de personnes qui viennent du protestantisme et même du monde non-croyant. En ce qui concerne le protestantisme, il y en a certains qui se convertissent donc au catholicisme. Et ce phénomène-là est effectivement assez spectaculaire, oui.
Comment justement expliquer cette attraction du catholicisme sur des luthériens ?
Ce serait très difficile, à mon avis, de donner une réponse très simple et schématique à cette question, parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers telle ou telle église ? À partir de quand est-ce que Dieu nous parle, pour ainsi dire ? On peut penser que l'église luthérienne est devenue très libérale sur le plan théologique, que parfois elle pourrait sans doute faire peur à un certain nombre de chrétiens attachés à un christianisme plus traditionnel. En même temps, il y a beaucoup de Suédois qui se tournent vers l'Église catholique suite à une retraite spirituelle où leur première découverte d'une Église tout court a été justement presque par hasard l'Église catholique. Moi, je pense que l'Église catholique satisfait un besoin de profondeur, d'authenticité et aussi peut-être de continuité.
Vous dites que l'Église luthérienne suédoise se distingue par son libéralisme. Alors pourquoi et surtout comment se manifeste ce libéralisme ?
L'Église luthérienne suédoise a toujours été, depuis la réforme, tout à fait politisée. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que c'est une Église qui a toujours été plus ou moins contrôlée par l'État, ou en tout cas cultiver les liens extrêmement forts avec l'État. Et cela, ce phénomène continue encore aujourd'hui. Ce qui fait que l'Église luthérienne, elle suit presque toujours les grands courants de la société qui l'entourent. Par conséquent, elle a autorisé très vite l'ordination des femmes pasteurs. Ensuite, on est passé plus récemment, dans les années 2000, au mariage homosexuel au sein de l'Église. Et c'est sûr que pour beaucoup de chrétiens qui ne sont pas luthériens ou qui ne sont pas particulièrement attachés à ce luthéranisme-là, le fait même qu'on peut célébrer le mariage homosexuel dans l'Église luthérienne, ça peut faire peur, et en tout cas ça peut surprendre.
L'Église luthérienne suédoise est en perte de vitesse et en face on a une Église catholique ultra minoritaire mais qui attire, qui est en pleine expansion. Est-ce que vous pensez que l'Église luthérienne du coup prend la mesure de ce qui se passe et qu'elle en tire des leçons ?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de luthériens en général qui en tirent beaucoup de conséquences de ce fait et qui s'inspirent énormément et de plus en plus des églises évangéliques d'abord, parce qu'elles sont très dynamiques, et ensuite aussi de l'Église catholique. Et l'Église luthérienne a repris plusieurs formes de rituels. Il y a à nouveau des bougies. On se réfère de plus en plus à une culture catholique à l'intérieur même de l'Église luthérienne. Par ailleurs, il y a les évêques qui sont au pouvoir, en quelque sorte, et une direction de cette Église. qui, elle, ne tire pas nécessairement les conséquences, c'est-à-dire qu'il continue à vouloir faire une église qui soit extrêmement proche de la société qui l'entoure et qui soit conforme aussi aux attentes des citoyens suédois en général. Alors, si on voulait être critique, on dirait que l'église luthérienne suédoise est très suiviste, alors que l'église catholique, elle n'a pas peur de cultiver son identité catholique, justement.
Vous évoquiez en début de cette interview l'exceptionnelle collaboration, le bon dialogue écuménique qu'il y a entre l'église catholique et l'église luthérienne. Comment se manifeste cette collaboration ?
Bon, d'abord, le dialogue écuménique en Suède est devenu presque historique. C'est à Stockholm où le dialogue écuménique officiel a commencé dans les années 1920. C'est en 1947 où on a créé la Fédération luthérienne mondiale, justement à Lund, où on va se retrouver avec les catholiques. Et les luthériens ont toujours, historiquement, pris des initiatives pour améliorer la qualité du dialogue écuménique en Suède. Et moi, je pense aussi que les catholiques, ils sont extrêmement preneurs, bien sûr, de dialoguer. Ils veulent être reconnus parce que historiquement, ils ont été opprimés, exclus, minorés, méprisés. Et donc, eux, ils apprécient beaucoup toutes sortes de volonté d'ouverture de la part de l'Église luthérienne. Par ailleurs, je pense aussi que la société suédoise en général est aujourd'hui une société plutôt tolérante, quoique très sécularisée. Elle est aussi libérale, et puisqu'elle est libérale, elle autorise, elle stimule, elle encourage aussi l'expression de religions et de confessions différentes.
Est-ce qu'il y a des pierres d'achoppement qui persistent, qui subsistent dans ce dialogue ?
Oui, toujours sur les ministères et le pouvoir. En Suède, il y a à la fois les évêques, mais aussi des personnes élues dans le cadre de l'élection générale, au sein d'un parlement qui a un pouvoir décisionnel au sein de l'Église. C'est ainsi qu'on prend des décisions doctrinales dans ce qui concerne l'Église luthérienne, alors que dans l'Église catholique, c'est le magistère qui tranche, et notamment le pape. La fonction même du prêtre n'est pas celle du pasteur. Le pasteur est un laïc, il fait son travail. Il peut être marié, il peut aussi divorcer, il peut être homosexuel. Alors que le prêtre catholique reste prêtre catholique, comme nous le connaissons. Donc ces questions-là demeurent extrêmement importantes. Maintenant, il y a une autre question qui sera d'actualité lundi, le 31 octobre, c'est sur l'intercommunion. Alors, les luthériens autorisent tout à fait l'intercommunion, ils pensent que l'Église catholique devrait l'autoriser, et la grande question est de savoir est-ce que le pape fera un geste par rapport à cette demande-là, sachant que la différence entre l'Église luthérienne et l'Église catholique en matière d'Eucharistie est relativement fine. Il n'y a pas une grosse différence. C'est pas comme pour les réformés ou pour les évangéliques, par exemple, où la communion est essentiellement symbolique. Chez les luthériens, on parle d'une présence réelle, par exemple, un peu comme dans l'Église catholique. Maintenant, la conception de l'Église catholique, de l'Eucharistie, elle va plus loin, puisque on pense que quand on communie avec toute l'Église, alors que quand on est luthérien, on pense qu'on communie avec le Christ, surtout. Donc, il y a une petite différence là. Mais l'intercommunion reste une question ouverte.